Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office. Ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 28 mai 1401 du calendrier iranien, 20 octobre 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information. Ensuite, notre commentaire politique. Les universités sont de grandes forteresses contre la domination des puissances arrogantes, a déclaré le leader de la révolution islamique. Le discours du leader de la révolution islamique. La Russie affirme ne pas avoir utilisé des drones iraniens dans le conflit avec l'Ukraine. Et Cisjordanie occupée, un Palestinien tué par un tir de l'armée israélienne. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a déclaré que les universités sont l'une des plus grandes forteresses contre les tentatives de puissance arrogante visant à dominer le pays, appelant l'élite universitaire à la vigilance face au complot des ennemis. Les universités font obstacle à la domination, autrement dit, en faisant progresser la science dans le pays, vous avez créé un obstacle contre la domination de l'ennemi, a déclaré mercredi l'Ayatollah Khamenei lors d'une audience accordée aux jeunes talents scientifiques du pays. Le commentaire politique d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. La Russie dément les informations occidentales selon lesquelles l'Iran lui aurait fourni des drones à utiliser dans la guerre en Ukraine, mettant en garde l'ONU contre la conduite d'une enquête sur de telles allégations. L'ambassadeur adjoint de la Russie à l'ONU a déclaré « Aucune arme n'a été livrée par l'Iran à la Russie en violation de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Aucun drone iranien n'a également été livré à la Russie pour être utilisé dans le conflit avec l'Ukraine. Il ne faudrait pas sous-estimer la capacité des drones de la Russie et je vous assure que nous savons ce que nous devons faire et comment le faire », a-t-il déclaré. Plus tôt dans la semaine, le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdullahian, avait nié les accusations et affirmé que Téhéran n'avait pas fourni et ne fournirait aucune arme destinée à être utilisée dans la guerre en Ukraine. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé la mort d'un adolescent de 16 ans lors d'un rassemblement contre l'occupation ayant tourné à l'affrontement avec l'armée israélienne vendredi dans un village proche de Ramallah. Un jeune homme de 16 ans, Amjad Nashat Abu Alia, est mort des suites de ses blessures après avoir essuyé des tirs à balles réelles lors d'affrontements avec l'armée israélienne près du village d'Al-Mourayer, non loin de Ramallah, précise le ministère dans un communiqué. Selon l'autorité palestinienne, le jeune homme est mort après avoir reçu une balle dans la poitrine et son décès a été déclaré après son transfert à l'hôpital. 5 autres manifestants auraient été blessés lors du rassemblement. Environ 400 Palestiniens se sont réunis vendredi dans cette zone pour protester contre la colonisation, selon des photographes de l'AFP sur place. Des affrontements ont éclaté lorsque des colons israéliens et des Palestiniens ont commencé à se lancer des pierres. Cet incident est survenu après que 2 Palestiniens ont été tués lors d'une opération nocturne de l'armée israélienne à Naplouse tôt dimanche, décrite par l'armée comme une fusillade avec des hommes armés. Le ministre britannique de l'Intérieur a démissionné avec une critique à peine voilée de la première ministre Liz Truss, qui se bat pour réaffirmer son autorité, alors que les législateurs de son propre parti l'appellent ouvertement à démissionner. Le départ de Suella Braverman, suite à une violation technique des règles gouvernementales, signifie que Liz Truss a maintenant perdu 2 de ses plus hauts ministres en moins d'une semaine, tous 2 remplacés par des politiciens qui ne l'avaient pas soutenu à la direction. Grant Shapps, qui, à le 4 octobre, déclarait que Truss n'avait que 10 jours pour sauver son poste de première ministre, remplacera Braverman dans le cadre de tentatives de la première ministre de réprimer une rébellion croissante en amenant les critiques dans le giron. Le législateur conservateur William Grave a déclaré qu'il avait soumis une lettre de censure à la première ministre, rejoignant une poignée d'autres qui l'ont appelé à partir. Il a fait savoir qu'il avait honte d'affronter les électeurs après le soi-disant mini-budget. L'ancien ministre britannique des Sciences, George Freeman, a déclaré « Trop, c'est trop. Le cabinet doit se ressaisir rapidement pour rétablir la responsabilité et la confiance collective. » L'OTAN ne devrait plus exister et l'Occident ne devrait plus exhorter l'Afrique à rejoindre les sanctions contre la Russie suite à son opération spéciale en Ukraine, a déclaré à Sputnik le responsable sud-africain Zolani Kiva. L'Occident mène une sorte de politique de colonialisme en exhortant l'Afrique à rejoindre la liste des pays qui ont imposé des sanctions contre la Russie, a déclaré ce délégué au Conseil national des provinces d'Afrique du Sud et directeur de la Fondation Kiva. Il va de soi que c'est totalement inacceptable et c'est une mentalité coloniale et une pensée impériale de dire aux petits pays qu'ils doivent s'unir contre la Russie simplement parce que la Russie veut défendre son propre territoire, a déclaré le Sud-Africain à l'agence de presse russe Sputnik. Ils ne peuvent pas nous dicter de choisir nos amis, a-t-il insisté. Il a rappelé le soutien soviétique au mouvement indépendantiste en Afrique. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Reste à l'écoute de notre commentaire politique. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a déclaré que les universités sont l'une des plus grandes forteresses contre les tentatives des puissances arrogantes visant à dominer le pays, appelant l'élite universitaire à la vigilance face au complot des ennemis. Les universités font obstacle à la domination. Autrement dit, en faisant progresser la science dans le pays, vous avez créé un obstacle contre la domination de l'ennemi, a déclaré mercredi l'honorable Ayatollah Khamenei lors d'une audience accordée aux jeunes talents scientifiques du pays. Il a ajouté que les génies sont parmi les atouts humains les plus importants de l'Iran. À plusieurs reprises, des tentatives ont été faites par nos ennemis pour faire fermer les universités ou faire dissoudre les cours en raison du rôle essentiel que jouent les universités dans le progrès national, a poursuivi l'Ayatollah Khamenei. Le leader de la révolution islamique a fait référence aux récentes émeutes dans certaines villes qui ont atteint certaines universités par des agitateurs essayant de forcer les professeurs à ne pas faire cours. Les émeutes ont commencé peu après la mort à l'hôpital le 16 septembre de Mahsa Amini, une jeune Iranienne de 22 ans, qui s'était évanouie dans un poste de police 3 jours plus tôt. L'honorable Ayatollah Khamenei a décrit sa mort comme événement douloureux. Le leader de la révolution islamique a en outre déclaré que les auteurs de menaces visant à empêcher les professeurs d'assister à leurs cours ne sont pas nécessairement des acteurs de ces troubles, ajoutant que l'ennemi, en sa qualité de principal responsable, a les yeux fixés sur les progrès scientifiques du pays et tente, par tous les moyens, de les entraver. Il a également déclaré qu'avant la victoire de la révolution islamique de 1979, les jeunes talents n'avaient pas l'opportunité de prospérer. Cette possibilité était inexistante sous la période tyrannique, et même si elle existait, elle ne figurait pas parmi les politiques officielles, a-t-il déclaré. Beaucoup de jeunes avaient de grands talents et étaient prêts à travailler pour le pays, mais ils ont été systématiquement réprimés, a ajouté l'Ayatollah Khamenei. Dans une autre partie de son discours, le leader de la révolution islamique a énuméré les réussites des scientifiques iraniens, tels que le clonage animal à l'Institut Ruyan, le lancement de satellites dans l'espace, la création de robots humanoïdes à l'Université de Téhéran, la promotion d'un programme nucléaire pacifique, la production de vaccins contre des maladies telles que le coronavirus et la fabrication d'équipements militaires de pointe comme des missiles et des drones. L'honorable Ayatollah Khamenei a rappelé que lorsque des images des satellites et des drones de l'Iran ont été publiées pour la première fois, les ennemis ont prétendu qu'elles étaient fausses. Mais maintenant, a-t-il ajouté, ils disent que les drones iraniens sont très puissants et demandent « Pourquoi les vendez-vous à tel ou tel pays ?»
Et bienvenue sur les plateaux de Presse TV à partir des studios de Téhéran. Aujourd'hui, un sujet, l'OTAN, les manifestations, les problèmes d'énergie et les adhésions de l'OTAN. Comme d'habitude, nous sommes en débat aujourd'hui. Je vous propose, comme d'habitude, un reportage et après la venue de nos deux invités qui donneront donc leur point de vue, débattront sur le sujet donc de l'OTAN, des manifestations qui ont lieu régulièrement, notamment dans l'Union européenne, et également des adhésions différentes de l'OTAN. Tout de suite, je vous propose donc le reportage.
L'Europe secouée par des manifestations généralisées dues à la crise énergétique résultant de la guerre en Ukraine. En France, de nombreux appels à la grève ont été déposés pour le mardi 18 octobre afin de réclamer une hausse des salaires et de s'opposer aux réquisitions des grévistes. Dans l'industrie pétrolière, la grève devrait se poursuivre chez Total Energy dans les équipes de raffinage et de dépôt de carburant. Concernant ce mouvement de grève qui touche les raffineries, il y aura des réquisitions autant que nécessaire, rassurait Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Près de 150 points de rassemblement sont prévus en France, selon la CGT, qui organise cette journée avec les syndicats FO, Solidaires et FSU et les organisations de jeunesse FIDL, MNL, UNEF et la vie lycéenne. À Paris, la manifestation doit démarrer à 14h de la place d'Italie en direction de la place Vauban. Un autre cortège pour protester contre la réforme des lycées professionnels défilera du métro Saint-François-Xavier au métro Sèvres-Babylone. La précédente journée de mobilisation interprofessionnelle, le 29 septembre, avait rassemblé 118 500 personnes, dont 13 500 à Paris, selon la police, et 250 000 et 40 000 selon les organisateurs. Des manifestations ont été organisées en Europe contre l'OTAN, la guerre en Ukraine et la fourniture d'armes à l'Ukraine. En Italie, des manifestations ont eu lieu dimanche 16 octobre dans la capitale Rome pour protester contre l'adhésion de ce pays à l'alliance militaire de l'OTAN dirigée par les États-Unis ainsi que contre la vie chère. Il y a quelques jours, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Paris pour demander la fin de l'adhésion de la France à l'alliance militaire dirigés par les États-Unis. Eux aussi, ils ont exhorté leur gouvernement à mettre fin à la livraison d'armes à l'Ukraine qui n'a fait que prolonger la crise. Les capitales de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique, de la Moldavie et de l'Angleterre ont été également la scène des manifestations contre l'inflation et l'augmentation des prix de l'énergie ainsi que contre la guerre en Ukraine à l'origine de ces problèmes.
Alors, comme vous l'avez entendu, les manifestations ne cessent pas. Bien au contraire, elles ne font qu'augmenter. Nous avons vu ces derniers mois des manifestations contre l'OTAN et l'opposition à la guerre avec l'Ukraine, par le biais de l'Ukraine contre la Russie, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en France, des pays également qui ressentent au plus fort et au prix le plus cher les augmentations de l'énergie. Comme le veut la tradition du débat, nos invités, après le reportage, nous accueillons donc M. Luc Michel, géopoliticien, basé à Bruxelles. Bonjour M. Luc Michel, ravi de vous revoir sur nos plateaux.
Bonjour à vous, bonjour à mon collègue, et toujours un grand plaisir d'être présent avec vous. Ces manifestations sont très importantes parce qu'elles montrent que les populations européennes sont opposées à la guerre américaine en Ukraine.
En effet, donc beaucoup de manifestations ces derniers temps. Notre deuxième invité étant M. Arnaud Develet, juriste international. Est-ce que M. Arnaud Develet nous a rejoint ?
Oui, je suis là.
Bonjour, monsieur Maître Develet. Donc, comme je l'ai indiqué, nos deux invités étant présents, nous pouvons commencer le débat. Ces manifestations, Maître Develet, commençons par vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? On a vu toute l'Europe, l'Union européenne s'y opposer. Le peuple européen, je ne parle pas forcément des politiciens, le peuple européen s'opposait à l'OTAN. Qu'en pensez-vous ?
Ben, écoutez, d'abord, je souhaitais dire bonjour aux téléspectateurs, bonjour à Luc Michel et bonjour à toute l'équipe.
Bonjour, monsieur.
Écoutez, c'est très simple. L'Union européenne, dans sa configuration actuelle, mais enfin, ça date pas d'hier, est complètement corrompue jusqu'à son sommet. On a une Commission européenne composée de commissaires politiques qui ne sont absolument pas élus et qui sont eux-mêmes, si je puis dire, impliqués dans des affaires de corruption à grande échelle. que ce soit au niveau de l'industrie pharmaceutique, que ce soit au niveau des fabricants d'armes. Et ce faisant, ce sont eux qui donnent le là, et les gouvernements dits nationaux sont en fait des gauleiters, comme on avait à l'époque de l'occupation nazie en Europe. Donc vassaliser, ils mettent en œuvre, ils relaient, si je puis dire, la feuille de route. Donc la feuille de route, pour l'instant, elle est décidée à Washington et Bruxelles, à savoir il faut, selon eux en tout cas, mettre la Russie à mal, il faut se servir donc de l'Ukraine pour ce faire, il faut donc délivrer un maximum d'armes, et on a vu encore récemment en France, Emmanuel Macron était sur une émission télévisée à portée nationale il y a quelques jours, et alors même qu'il prétend ne pas vouloir impliquer la France dans le conflit, il a annoncé un nouveau package, si je puis dire, d'armement, dont des systèmes antibalistiques Crotale. Il va rajouter des missiles César à longue portée, et il va rajouter aussi tout un tas d'équipements, ce qui fait que juridiquement, on est en co-belligérance essentiellement. Et on pourrait se demander quel est l'intérêt pour la France de continuer à attiser ce conflit qui voit effectivement, et ça se voit maintenant dans les rues, le pouvoir d'achat des Français baisser de manière drastique, et surtout le coût de la vie complètement devenir hors de contrôle. Et encore une fois, dans un contexte des tensions de plus en plus importantes, c'est un jeu extrêmement dangereux, et on peut se demander si quelque part ce n'est pas une politique qui est poursuivie. Alors à la maison, sur un front domestique de tension, stratégie de la tension, avec ces pénuries qui sont selon moi organisées plus ou moins par le gouvernement, parce qu'il n'y a pas d'autres, je n'ai pas entendu de pénurie ailleurs en Europe. Et sur le plan extérieur, bien sûr, essayer de provoquer une escalade dans le conflit à l'échelle continentale, peut-être dans le contexte élargi d'un agenda qui m'échappe. Enfin, toujours est-il que tout ça, ce n'est pas du tout dans l'intérêt des Français.
Merci, Maître Develay. Monsieur Luc Michel, donc, vous-même qui êtes en Europe, qui vivez la situation avec le peuple européen, il ne faut pas oublier que ce n'est pas la première fois que l'Europe et le peuple européen, les citoyens européens manifestent contre les adhésions différentes des pays européens. Je parle notamment de l'ONU et de l'OTAN. Ce n'est pas la première fois que les Européens s'opposent aux décisions de ces deux systèmes. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même ?
Tout d'abord, je voudrais compléter ce qu'a dit Maître Develay. Je ne pense pas que les politiciens européens sont des gauleiters yankees, mais les Ursula von der Leyen, les Joseph Borrell, les Charles Michel, nous ne sommes pas parents, c'est un homonyme, mais aussi les Macron, Trousseau, Scholl et compagnie, ce sont en 2022 les héritiers de Kislyak et de Pétain. Et comme Zelensky est l'héritier de Bandera, ce sont les collaborateurs des nazis. Il y a eu les manifestations contre l'OTAN en France, en Allemagne, à Prague. Aujourd'hui, il y a des manifestations socio-professionnelles. Le régime Macron, par exemple, nous dit que c'est des questions de salaire et de pénurie d'essence, mais en fait, c'est directement lié au coût de la guerre américaine en Ukraine et aux sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Le vice-président, l'ancien président russe Dmitri Medvedev, a appelé d'ailleurs les populations européennes à sanctionner ceux qu'il appelle les dirigeants idiots et irresponsables de Bruxelles. Il y a eu un sondage d'écran sur l'émission Tout le monde en parle, qui est une télé-réalité la plus populaire en France. 75% des téléspectateurs se sont prononcés contre les sanctions pour la Russie et contre l'arrêt du soutien en Ukraine. Voilà la réalité, évidemment. La télévision russe s'est moquée des grèves en France et des bagarres dans les rues et des chocs sociaux sur la question des livraisons d'énergie. Et elle a répondu à Joseph Borrell. Joseph Borrell, la semaine passée, appelait à des frappes nucléaires contre la Russie. On rappellera que c'est un politicien espagnol atlantiste qui est à la tête de l'Union européenne et qui n'a pas été élu. Mais cette semaine-ci, il a dit que l'Europe était un jardin et que le reste du monde était une jungle. La télévision russe lui a répondu que c'était de ce jardin qu'étaient issus Adolf Hitler et Benito Mussolini. C'est la réalité. Il y a une hypocrisie fondamentale des dirigeants atlantiques. Il y a 30 ans, lors des guerres de Yougoslavie et de la première guerre du Golfe, le grand géopoliticien européen, le général autrichien Jordi von Lausen, aujourd'hui disparu, disait que les guerres, la participation aux guerres américaines par les politiciens européens de l'OTAN était une trahison fondamentale des intérêts de leur peuple. Il a encore aujourd'hui tout à fait raison.
Merci, M. Luc Michel. Monsieur Maître Develet, vous-même, étant, si je ne me trompe pas, à Damas, vous avez vu vous-même le travail que fait l'OTAN à l'extérieur de ce présumé jardin, alors que les peuples n'en veulent pas. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pensez de la voix européenne qui, de plus en plus, demande l'inexistence de l'OTAN, puisque à un moment donné, on a même parlé de la disparition de l'OTAN et cette guerre avec l'Ukraine est arrivée. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je pense au contraire que l'OTAN est plus que jamais d'actualité. Bon, Trump en avait parlé parce que lui, c'est un politicien nationaliste qui ne voit pas l'intérêt de dépenser le trésor des États-Unis dans des excroissances extérieures néo-impériales. Mais au niveau de la bureaucratie fédérale américaine, l'OTAN est une pièce fondamentale. Ça fait vivre beaucoup de gens, beaucoup de bureaucrates internationaux. Et surtout, ça permet d'enrichir les fabricants d'armes. Donc l'OTAN, normalement, on aurait dû disparaître en 1990. En tant qu'alliance défensive, la menace qui avait été mise en avant et gonflée artificiellement à l'époque par ce qu'on appelle les QP dans les années 70 aux États-Unis, un peu les ancêtres des néoconservateurs d'aujourd'hui, qui nous avaient refait le coup ensuite avec la menace internationale de l'islamisme radical. Mais voilà, c'est l'idée de l'OTAN, c'est que c'est un application à s'étendre sur un plan planétaire et donc de trouver toujours de nouvelles justifications pour pouvoir obtenir davantage de budget et faire vivre les centaines de milliers de personnes qui composent sa bureaucratie, tout simplement.
Merci, Maître Develet. Monsieur Michel, que disent donc les manifestations à proprement parler par rapport à la guerre avec l'Ukraine, leur opposition à l'OTAN, c'est quoi comment ils justifient les manifestations, les Européens?
Mais moi, je suis beaucoup plus nuancé que Maître Develet. Tout d'abord, l'OTAN, ce n'est pas une alliance défensive. Elle se présente comme le bouclier de l'Europe, mais en fait, c'est le harnais de l'Europe. C'est celle qui assujettit l'Union Ouest européenne aux États-Unis, qui sont les vassaux de l'Amérique. Et c'est phénomène d'esclavage. Mais il y a deux phénomènes intéressants d'Europe. C'est que des masses de plus en plus larges refusent l'OTAN et elles y sont conduites par le coup de la guerre américaine en Ukraine. Mais à côté de ça, il y a un autre phénomène. C'est l'existence d'élites, si vous voulez, non politiques européennes, c'est-à-dire des cadres, des généraux, des amiraux, des diplomates, des industriels, eux veulent s'entendre avec la Russie. Le chef de file, c'est l'ancien chancelier Schröder en Allemagne, qu'on n'a pas réussi à éliminer de la vie politique allemande. Aujourd'hui, lorsqu'il y aura une jonction entre ces élites européennes anti-américaines et les masses européennes anti-américaines, ce sera la fin de l'OTAN. Voilà pourquoi beaucoup d'Européens manifestent. Les manifestations avaient commencé déjà en 2018 à Bruxelles lors de la venue de Donald Trump. Et aujourd'hui, Joe Biden, en fait, a réussi le programme de Trump. Il a réussi à réassujettir l'OTAN. On ne parle plus de défense européenne. On ne parle plus des mérifiques projets de l'agence américaine qui est Macron. Mais en réalité, les Américains dominent complètement l'OTAN aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en Europe? Il y a eu un document qui a fuité aux États-Unis il y a deux semaines. Il était émis par un think tank tout puissant qu'on appelle la Rand Corporation. Il a été rédigé avant la guerre en Ukraine. Il explique que les buts des Américains doivent être de détruire géopolitiquement la Russie et de détruire économiquement l'Union européenne en fracturant l'union économique de l'Union européenne avec la Russie et en empêchant la livraison d'hydrocarbures russes en Europe de l'Ouest. Malheureusement, dans ce domaine-là, s'ils ont échoué contre la Russie, les Américains, dans ce volet contre l'Europe, ont parfaitement réussi.
En effet, M. Luc Michel, j'allais justement en parler. L'économie, on parle de 2 ou 3 ans de Corona, on parle d'une inflation que subissent les Européens depuis 10 ans, parce que la crise économique ne date pas de la guerre avec l'Ukraine. La situation européenne depuis un certain temps est quand même critique. Et cette guerre avec l'Ukraine, qui n'a pas été forcément voulue par les Européens, est bien là, est bien à leur porte. Et ils en subissent les coûts les plus importants, étant donné que beaucoup de choses dépendent de l'Ukraine pour l'Union européenne. Monsieur Develay, vous regardez ça de loin, mais vous suivez ça quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était vraiment le moment le plus critique, cette guerre avec l'Ukraine, pour l'Union européenne.
Oui, on a dit de la guerre contre l'Ukraine. En Ukraine, que c'était un accélérateur effectivement d'un agenda, Luc Michel fait bien de le souligner, qui avait été mis en place par la Hollande en 2009 déjà. Ça passait par allumer un maximum de fragilité autour de la Russie pour l'embourber dans des et drainer donc tout son potentiel avec le peuple se révolterait et provoquerait un changement de régime. Le temps, c'est d'avouer que cette stratégie, cette tactique, en tout cas, a complètement, effectivement, eu l'effet inverse, en tout cas pour ce qui est de l'Europe. Mais pour ce qui est des États-Unis, effectivement, ils éliminent un concurrent direct sur un plan économique. Et si je puis dire, consolident leur position dans peut-être l'idée, après, une fois que le processus d'appauvrissement en Europe aura été mené à son terme, peut-être alors engager des pourparlers pour une redéfinition des sphères d'influence. Mais effectivement, cette a eu comme collatéral l'effondrement d'une économie européenne. Depuis au moins 20-25 ans, on dit d'elle qu'elle ne produit aucune croissance, elle ne vit que sur la dette, et que partant de là, effectivement, comme vous l'avez très bien souligné, le crash de 2008 avait déjà considérablement exposé la fragilité des institutions financières européennes. En 2011, il y avait les stress tests qui avaient révélé que 9 banques sur 10 pratiquement n'étaient pas en mesure d'éponger les pertes qui seraient occasionnées par une nouvelle affaire des subprimes. Et donc, si je puis dire, voilà, l'Union européenne, je pense, va imploser de l'intérieur, puisque si elle ne peut pas, si je puis dire, d'une croissance qui permettrait au peuple de vivre décemment, il est difficile d'imaginer comment politiquement elle peut se maintenir.
Merci, Maître Develay. Alors, Monsieur Luc Michel, c'est vous qui avez abordé la question économique. On l'a bien dit, oui, Monsieur Develay a confirmé depuis 2008, finalement, l'Union européenne fait face à une crise économique de plus en plus croissante et malgré des salaires qui ne bougent pas, vous-même qui êtes à Bruxelles, vous avez dû voir la qualité de vie des Européens diminuer de plus en plus et cette période de Corona et maintenant de guerre n'a fait qu'aggraver les choses, disons, a rendu les Européens, je veux dire, inertes par rapport à la situation.
Écoutez, le Premier ministre belge de Croix, qui est un atlantiste libéral, a annoncé qu'on était parti pour 5 hivers de misère en Europe. Cet hiver, les Européens en France, en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bretagne, qui est l'épicentre de la crise socio-économique en Europe, ils vont devoir choisir entre se soigner, se chauffer, circuler en voiture ou manger. Voilà ce qu'on est. Mais le fondement de l'échec européen, il n'est pas économique, il est géopolitique. L'Union européenne, c'est un projet géopolitique morné depuis le traité de Maastricht. En effet, dans le traité de Maastricht, on confie la défense de l'Europe à l'OTAN, c'est-à-dire à une puissance, les États-Unis extra-européennes. L'Europe va finir par exploser, évidemment. Les Romains parlaient, il y a 20 siècles, de l'hubris, c'est-à-dire l'excès de puissance qui conduit à l'échec. Aujourd'hui, l'hubris détruit l'Union européenne. Mais évidemment, les Américains ont tort de se réjouir. S'ils sont en train de faire du tort à la Russie et de ruiner économiquement l'Europe, ils ont sapé les fondements du nouvel ordre mondial géopolitique proclamé en 1991. Ils ont sapé les fondements de la globalisation, le Macworld, Et ils sont en train d'assister à la dédollarisation du monde et à la perte de contrôle du marché des hydrocarbures.
D'ailleurs, aujourd'hui,
82% de la population mondiale soutient la Russie ou est neutre et 18% seulement soutiennent les USA. C'est la fin de l'ordre occidental.
D'ailleurs, M. Luc Michel, désolé de vous couper, il y a également eu le fait que ces derniers temps, on voit bien au sein de l'OTAN une désunion entre la Norvège qui déclare qu'il ne vendra pas son gaz avant comme au prix d'avant la crise, que les États-Unis vendent leur gaz de schiste qui est un polluant énorme à un prix exorbitant. Même Macron l'a souligné, lui qui est un grand ami du système américain. On voit en plus, du fait que l'Union européenne commence vraiment à avoir mal au dos, on voit en plus une désadhésion de l'unité de l'OTAN.
Vous ne devez pas vous tromper. La crise, ce n'est pas à l'intérieur de l'OTAN. L'OTAN, c'est l'union militaire dans laquelle on enserre les Européens. La crise, elle est à l'intérieur de l'Union européenne. Il y a des égoïsmes nationaux, des politiques divergentes. Les Allemands voudraient négocier en sous-main avec la Russie. On a d'ailleurs confié en ce sens une mission au chancelier Schröder. Victor Orban, qui est l'allié de la Russie au sein de l'Union européenne, il organise le mois prochain un référendum en Hongrie. La question posée, c'est doit-on continuer les sanctions contre la Russie? Donc, je tiens à le souligner, la crise est à l'intérieur de l'Union européenne et la Russie l'a compris. Medvedev, lorsqu'il appelle à sanctionner les politiciens atlantistes de Bruxelles, de Paris, de Londres ou de Berlin. Il a compris la stratégie à suivre. Il faut briser les Occidentaux sur la question de l'Union européenne et l'OTAN suivra.
Merci, M. Luc Michel. Maître Develet, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'OTAN semble unie malgré le fait que différents membres de l'OTAN ont à plusieurs reprises montré leur désunion, c'est-à-dire ne sont pas montrés coopérants par rapport à la crise énergétique? Ou est-ce que vous êtes comme Luc Michel en disant que la crise vient de l'Union européenne, non pas de l'OTAN?
Non, Luc Michel a parfaitement raison. C'est l'Union européenne qui sera le talon d'Achille de l'OTAN. À partir du moment où les deux attelages sont corrélés, si l'Union européenne venait à imploser les lignes de fracture sont clairement établies, et on peut imaginer que dans la trajectoire actuelle, les lignes de front, les lignes de fracture vont s'intensifier jusqu'à ce que les contradictions internes de l'Union européenne lui explosent à la figure, ce qui entraînera de facto, par effet mécanique, une désagrégation de l'OTAN.
Ce qui me fait penser, selon vos propos à vous, M. Luc Michel et à Maître Develet, qu'en fait, là, malgré le fait que d'un point de vue territorial, la Russie peine à récupérer certains territoires par rapport aux parties qui sont en guerre, l'Europe et l'OTAN sont en train de perdre d'un point de vue économique et géopolitique. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Luc Michel, en quelques mots?
La Russie ne mène pas une guerre. Elle mène une opération militaire spéciale et elle est très réservée parce qu'elle ne peut pas frapper militairement des territoires et les détruire alors qu'elle veut les récupérer. Tout le reste, c'est de la propagande de guerre de l'OTAN. Actuellement, l'armée ukrainienne dispute à la Russie 5000 km², mais la Russie a annexé plus de 100 000 km². C'est cela la réalité. La Russie gagne en Ukraine, elle gagne en Afrique, elle gagne géopolitiquement, elle gagne économiquement. Voilà ce qu'il faut retenir évidemment de toute l'affaire, bien entendu. Mais maintenant, ce qu'on va insister, c'est de plus en plus un des lignes de fracture. Plus la crise économique va s'étendre, l'Allemagne, par exemple, n'acceptera jamais de voir détruire son industrie. Cette industrie dépend essentiellement des fournitures de gaz russe bon marché. Le 8e train de sanctions de Bruxelles, c'est l'interdiction de l'importation d'acier russe vers l'Allemagne et la Belgique. Les dernières industries belges et allemandes vont donc disparaître. Le gouvernement atlantiste de Bruxelles, d'ailleurs, s'est abstenu de voter cette sanction. C'est cela la réalité. La victoire finale appartiendra à la Russie. Je n'en ai pas de doute.
Merci Luc Michel. C'est là que je remercie nos invités d'avoir participé. Maître Arnaud Develet, juriste international. Monsieur Luc Michel, géopoliticien à partir de Bruxelles. Moi, je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Donc, je rappelle le titre, l'OTAN et les manifestations dans l'Union européenne qui s'opposent donc à la guerre avec la Russie et aux conflits et aux problèmes vus par rapport à l'énergie et à l'économie. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir à partir des studios de Téhéran, de Prestige. À bientôt pour le prochain débat.
Voix de l'éloquence est le plus célèbre recueil de sermons, lettres, exégèses et récits attribués à l'imam Ali, béni soit-il. Il a été recueilli par Sharif Razi au Xe siècle. Connu pour son contenu éloquent, il est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature dans l'islam chiite, après le Coran et les hadiths prophétiques. Dans cette 24e édition dédiée à la voix de l'éloquence, nous vous présentons une maxime du successeur du prophète, premier imam des musulmans, l'imam Ali, béni soit-il. Quand nous avons un droit, nous exigeons qu'il nous soit donné. Sinon, nous monterons à dos de notre monture et nous irons le chercher nuit et jour. Dans cette maxime de la voix de l'éloquence, le vénéré imam Ali, béni soit-il, souligne l'importance du droit et de son recouvrement pour chaque individu qui considérerait la privation de son droit comme une injustice. Ceux qui font de l'oppression et de l'injustice ne prospéreront jamais. Ceci est une promesse de Dieu le Très-Haut dans le Coran. Cela signifie qu'ils n'atteindront jamais le succès dans ce monde, le succès dans son véritable sens. Ils feront également face aux conséquences de l'injustice dans l'au-delà. Ils échouent donc dans les deux mondes. L'oppression et l'injustice signifie que les choses ne sont pas mises à leur place. L'injustice est tout ce qui est fait contre les lois de la perfection de l'âme, aussi bien que ce qui est fait contre les autres en les privant de leurs droits. Cela inclut les notions comme la violence, la tricherie, les détournements de fonds, les abus et tout ce qui peut nuire à autrui. Un oppresseur et un injuste sont ceux qui ne sont pas reconnaissants pour les bienfaits reçus de Dieu et qui ne se considèrent responsables envers personne. Le prophète de l'islam dit « Faites le bien et renoncez au mal ». L'injustice est de trois sortes. En premier lieu, l'injustice qui n'est pas pardonnée, comme associer quelque chose à Dieu. À ce propos, Dieu a dit « Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. Deuxièmement, l'injustice qui est pardonnée. Par exemple, l'injustice que l'on commet contre soi-même. Et troisièmement, c'est l'injustice qui n'est pas pardonnée. Il s'agit de l'injustice que l'on fait subir à autrui. L'injustice détruit l'individu aussi bien que la société. Il endommage le système qui doit régner sur le monde. Dieu Tout-Puissant a créé un système et des lois afin que la vertu et la paix prédominent. Les humains violent ces lois et leurs vices incontrôlés engendrent le désordre dans la société. L'injustice a d'énormes répercussions sur la société. Les humains deviennent incapables de tirer le meilleur parti de leur potentiel à cause de l'injustice qu'ils subissent de la part des autres. L'oppression a également propagé la corruption sur Terre. C'est pour cela qu'il est fermement condamné par l'islam. De nombreux versets du Coran parle sévèrement des injustes. Dieu dit « Et ne pense point que Dieu soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. » Le Coran dit aussi « Les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront. » Dans le sermon 215 de la Voix de l'éloquence, le vénéré imam Ali béni soit-il, premier imam des chiites, dit « Je préfère passer la nuit en éveil sur les épines piquantes que de rencontrer Dieu et son messager le jour du jugement dernier en tant qu'oppresseur envers quiconque et en tant qu'usurpateur de quoi que ce soit des richesses de ce monde. Par Dieu, si on me donne les 7 continents, avec tout ce qu'il y a sous leurs cieux, pour que je désobéisse à Dieu en extorquant la croûte d'un grain d'orge à un fourni, je ne le ferai jamais. » L'injustice est le résultat de l'absence de croyance en Dieu et en l'au-delà. On ne craint pas d'avoir à rendre des comptes. Il y a également un manque de contrôle des impulsions des désirs matériels. L'avidité pour la richesse et le pouvoir domine l'âme et aucune limite n'est respectée quant à la réalisation de ses désirs. Une telle personne ressemble davantage à une bête sauvage devenue incontrôlable. L'histoire de Karbala donne un exemple sans précédent de lutte contre l'injustice. Cela montre aussi comment ceux qui sont injustes ne réussiront jamais. Finalement, c'est le petit groupe de personnes déterminées qui a défendu la justice qui réussira. Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Thank you.